Van a une vie très différente de la nôtre. Je vous ai dressé les grandes lignes. Mais dans la vie des saints, il y a toujours des choses qui sont inimitables. Mais plus on approfondit en même temps la vie des saints, plus on va à l'essentiel et plus on peut découvrir aussi ce qui est bon pour nous. En définitive, moi, ce qui m'intéresse personnellement dans la vie de Van, c'est de trouver ses secrets de sainteté. Alors, il y a une chose qui est très frappante. Là, j'ai le tout petit livre de son père spirituel, c'est lui qui l'a poussé à écrire, qui recopiait ses lettres, tellement il était touché par la beauté des lettres de Van. Et qu'est-ce qu'il dit, ce bon missionnaire français, rédemptoriste? Il dit, le frère Marcel m'a appris sur la vie spirituelle beaucoup plus que j'ai pu lui en apprendre moi-même. Cet adolescent de 16 ans qui est arrivé dans la maison des rédemptoristes a été un maître spirituel pour son père spirituel. Et ce qui l'a touché, c'est comme il dit, d'abord j'ai été profondément touché de l'incroyable familiarité, de la tendresse dont le frère Marcel a été l'objet de la part de ses interlocuteurs célestes. Interlocuteur céleste, Marcel Van a eu une grande intimité avec plusieurs personnes. D'abord la petite Thérèse, ensuite la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Mais de fait, le mot « incroyable familiarité », ça, on peut le retenir. C'est un maître dans une relation toute simple, toute vraie, toute sincère. C'est ce que Jésus lui dit plusieurs fois. Ton amour est faible, mais il est sincère. Tu es faible dans ton amour, mais ce qui me plaît, c'est ta sincérité. Autrement dit, Marcel Van peut nous aider à passer d'une religion de devoir. On fait des choses pour Dieu, pour les autres et pour Dieu, à une relation beaucoup plus vraie, beaucoup plus vivante et beaucoup plus intime. C'est en fait l'objet de la sainteté. La sainteté, ce n'est rien d'autre que ça. Arriver à une vraie relation. Alors je vais prononcer un mot qui peut-être n'est pas facile à entendre, une vraie relation amoureuse avec le Christ. Je dis pas facile à entendre parce que si vous lisez les colloques, je me suis concentré sur les colloques. Les colloques, donc, c'est essentiellement cette période où il était novice, donc il avait 16, 17 ans, 18 ans, et dans lequel il a bénéficié notamment d'une intimité particulière avec l'enfant Jésus. Dans les colloques, vous avez beaucoup de dialogues qui tournent autour de la question de l'épouse. Est-ce qu'il n'y a que les femmes à être épouses du Christ? À un moment, le petit Van a pensé qu'il n'y avait que les femmes qui pouvaient être vraiment dans une relation amoureuse avec Jésus. Et alors, il avait prié la petite Thérèse pour qu'elle obtienne la grâce que lui, Van, devienne une carmélite. Vous voyez que la petite Thérèse, elle voulait être prêtre, et Van, lui, il voulait être carmélite. Donc, ils étaient faits pour s'entendre. La petite Thérèse lui explique que ça ne marchait pas comme ça, qu'il n'avait pas besoin de changer de sexe pour, c'est d'actualité, hein, pour vivre une vraie relation amoureuse avec Jésus. Et alors, évidemment, Van, il était très intelligent, c'est un garçon précoce. Et il aimait bien discuter aussi. Ça se voit. Alors, il discutait avec ses frères et l'immense majorité des frères rédemptoristes qui étaient avec lui lui disaient, mais Van, ça n'a pas de sens, Nous, on n'est pas des femmes, on ne peut pas être épouse du Christ. Alors, Van était très, très remonté par rapport à ça. Et alors, il expliquait à Jésus les arguments des frères, et Jésus lui expliquait qu'en fait, il fallait pas qu'il se décourage, que de fait, il était une véritable épouse. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce débat autour de savoir si on peut être épouse du Christ ou pas. Je suis sûr que pour la plupart des bons catholiques, c'est vraiment complètement abstrait. C'est gentil, c'est beau, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette question d'épouse? Ici, j'appelle le Benoît XVI à l'aide. Dans son encyclique sur Dieu est amour, le pape dit que amour, ça peut prendre différents sens. Au sens, il y a l'amour du travail, l'amour des parents, l'amour fraternel, l'amour pour le prochain. Mais il dit en définitive, le mot amour, il trouve son sens le plus fort. L'archétype de l'amour, c'est la relation amoureuse. Et pourquoi? Parce que, au fond de nous-mêmes, il y a ce désir, et le pape l'explique bien, il y a ce désir de l'extase. C'est ce qu'on recherche humainement dans la relation amoureuse. C'est-à-dire d'un mouvement qui nous sort de nous-mêmes. Parce qu'au fond, l'enfer, entre guillemets, c'est de rester enfermé en soi. Dans la prison de notre propre moi. Moi, je cite souvent, et ça restera gravé dans mon cœur jusqu'à ma mort, je cite souvent la dernière parole d'un mourant à l'Hôtel Dieu. Il avait passé sa vie dans les scrupules. Les scrupules, c'est quoi? C'est une des manières dans lesquelles on reste enfermé en soi, c'est-à-dire à se regarder soi, à se chercher soi. Et cet homme qui avait passé sa vie dans les scrupules, de confession en confession, d'aveu en aveu, il n'avait pas réussi à sortir de ça, et il est mort quelques heures avant de mourir. Il a dit, j'aimerais sortir de moi-même. Mais ça, en fait, cette sortie de soi, elle ne peut se réaliser qu'à l'intérieur d'une relation amoureuse au sens le plus fort, c'est-à-dire dans lequel je suis touché et attiré par un autre que moi. Et qui provoque un mouvement de, par attraction, un mouvement de sortie de soi. Le pape Benoît XVI a énormément développé ça, disant que le saint, c'est celui qui se laisse toucher par la beauté de Dieu, la beauté et la vérité de Dieu, et fasciné, plus exactement il utilise ce terme, fasciné, par la bonté, la beauté de Dieu, et qui, étant fasciné, s'oublie lui-même pour se perdre, pour s'abandonner totalement à celui qui l'attire. Vous voyez que, compris ainsi, la relation amoureuse avec Dieu, c'est la vraie vie, tout simplement. C'est-à-dire une vie dans laquelle je me trouve moi-même en sortant de moi-même. Je me réalise moi-même en sortant de moi-même. Parce que l'homme, il n'est pas fait pour se rechercher lui-même, il est fait pour vivre extatiquement. Récemment, le pape François a cité un écrivain français, Léon Blois, qui a dit que la seule tristesse dans ce monde, c'était de ne pas être saint. Mais cette tristesse de ne pas être saint, je l'ai rencontrée au chevet des mourants. Et de fait, quand un homme se retrouve sur un lit d'hôpital, c'est qu'il n'a plus rien à prouver, qu'il n'a plus aucune position à tenir dans la société. qui n'a plus d'œuvre à accomplir, que tout l'aspect du personnage à jouer disparaît, quand il est dans la nudité de son humanité crue, si je puis dire, et qu'une seule chose qui revient, c'est les relations. Les relations d'amour. Et souvent, dans le sens d'une souffrance de s'être laissé prendre par des choses et d'avoir oublié de cultiver d'abord la relation. Et la première relation, c'est la relation d'amour avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, en définitive, qui peut m'attirer et me tirer de moi-même jusqu'à l'extase. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Alors, le petit Van, mais c'était un assoiffé d'amour, mais pathologique, presque. Il était extrêmement attaché à sa maman. Ensuite, il s'est attaché à sa petite sœur, à tel point qu'il la prenait dans ses bras, il l'embrassait, et sa maman était inquiète. Il devait avoir 3-4 ans quand il l'a envoyée chez sa tante, parce que sa maman était un petit peu, dépassée par cette attitude affective dévorante. Il aurait pu devenir un enfant, enfermé dans des relations fusionnelles, comme ça, humaines. Mais en fait, Jésus a été le plus fort. Je crois me souvenir que les premiers mots qu'il a prononcés, c'était Jésus. Jésus-Marie. Il faut dire que sa maman était très, très profondément croyante. Donc en fait, ce petit cœur de Van, ce petit enfant de Van, assoiffé d'amour au départ humain, il a réussi à sortir de ce terrain simplement de l'amour humain en se laissant profondément touché par Jésus. Ça, il faut dire que c'est une grâce qui lui a été donnée. Hein. Moi, au même âge, je ne savais pas prier, j'étais d'une famille où on ne priait pas, et je risquais pas, je ne vois pas comment j'aurais pu avoir une intimité avec Jésus. Il y en a sûrement parmi vous qui se disent, il a eu de la chance. En tout cas, ce que je remarque chez le petit Van, et Bernadette Lemoine l'a bien souligné, c'est que les enfants précoces habituellement sont plutôt égocentriques et immatures au niveau affectif, et lui c'est tout le contraire. Il n'y a qu'à voir la fin de sa vie, comment il a assumé sa condition de prisonnier. Qu'est-ce qu'il dit? Il écrit de sa prison à sa sœur. Dans la prison comme dans l'amour de Jésus, rien ne peut m'enlever l'arme de l'amour. Aucune affliction n'est capable d'effacer le sourire caressant que je laisse paraître habituellement sur mon visage amaigri. Et pour qui est la caresse de mon sourire, si ce n'est pour Jésus, le bien-aimé? Il me reste l'amour, et avec l'amour, une volonté héroïque. Je suis la victime de l'amour avec un grand A, et l'amour est tout mon bonheur, un bonheur indestructible. Il écrit ça en prison, il est soumis à, maltraitance, qui l'a conduit à la mort au bout de 4 ans. Il est encore tout jeune, il a moins de 30 ans. Il témoigne qu'en fait, en prison, il se retrouve en position de curé de paroisse. Là, tout le monde vient à lui et demande d'être réconforté. Il le dit, depuis que je suis arrivé ici, mon travail ressemble à la charge d'un curé de paroisse. En dehors de mes heures de travail obligatoires, il me faut recevoir les gens et les conseiller l'un après l'autre. Tous viennent à moi, pensant que je suis un homme inépuisable. Ils voient bien que je suis faible, mais où peuvent-ils aller chercher consolation? Alors il faut bien que je me donne. Ce n'est pas du chiquet. C'est pas une relation d'épousailles dans la tête comme ça, c'est pas des fantasmes, c'est du réel. On voit qu'il y a une relation vraiment d'amour réel parce qu'on voit la force d'âme. Il a eu un procès qui l'a fait qu'il est passé de. Il a été condamné à 15 ans de camp. Au moment du procès, la personne qui a. Une communiste hein, qui était là et qui notait ses paroles. A dit, une telle force d'âme chez un jeune comme le frère Marcel est un témoignage de la vitalité extraordinaire de l'esprit catholique. C'est une communiste qui parle. Une telle force d'âme. Et là, donc j'insiste sur une chose, c'est que le premier effet d'une relation amoureuse, au sens où je vous l'ai dit, avec Dieu, c'est la force d'âme. Si c'est simplement comment dire, y a des gens qui lisent tellement d'écrits mystiques qu'ils s'y croient, voyez? Parce qu'à force de lire et d'être pénétré par des belles pensées, on finit par confondre la pensée et la réalité. Mais si on s'enfonce on se laisse vraiment profondément toucher par le Christ, comme l'a fait le petit Val, ce que ça produit, la première chose que ça produit, et c'est très beau à le voir, c'est ce côté inébranlable, insubmersible. Pourquoi? Parce que si je trouve ma joie dans cette relation d'amour avec Dieu, ben, il n'y a rien qui peut me l'enlever, la joie. Tout simplement parce que Dieu sera toujours là et personne ne pourra jamais m'empêcher de l'aimer. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni ange, ni créature, ni présent, ni avenir, ni la mort, rien. Donc la personne qui est parvenue à se lâcher elle-même pour se laisser fasciner par la beauté de l'amour divin qui s'offre à elle, elle commence la vie du ciel sur terre dans son cœur. Et il n'y a rien qui puisse je dirais, l'écraser, l'abattre. On voit bien ça, on a vu ça avec le pape Jean-Paul II, comment il a terminé sa vie, en chaise roulante, certes, mais debout, avec une force extraordinaire. Jusqu'au bout, il a dirigé l'Église. Quelques jours avant sa mort, le cardinal Ratzinger venait voir le pape pour lui demander des conseils sur une affaire très difficile. Jusqu'au bout, il tenait, à force d'âme. Qu'est-ce qui fait que le pape Benoît a pu quitter sa charge, comme il l'a fait, avec une telle liberté? Le fait que c'est un ami de Jésus. Rien que pour ça, la sainteté est désirable. Il y a un secret. Une fois, le pape a dit aux évêques suisses, le pape Benoît a dit aux évêques suisses qu'on pouvait tout faire pour Dieu tout en se tenant totalement à l'écart de Dieu. C'est-à-dire, on est dans le devoir, on n'est pas dans l'amour, vraiment. Donc, on se donne, entre guillemets, au sens où on fait énormément d'efforts pour accomplir ce qu'on pense être la volonté de Dieu, mais sans être vraiment dans une relation amoureuse. Eh bien, je peux vous témoigner, parce que je sais ce que c'est, que de faire des choses pour Dieu tout en se tenant totalement à l'écart de Dieu, c'est fatigant. C'est fatigant. Ça tient un temps, mais ça ne tient pas tout le temps. Et Val, lui, il ne s'est pas fatigué. Il a tenu jusqu'au bout. Une autre chose. J'ai noté sur une feuille toutes les avantages d'une vraie relation d'amour avec le Christ. aimer jusqu'à la vraie folie du cœur, comme disait Jean-Paul II. Je pense que un des effets les plus manifestes dans la vie de Vahm, comme dans la vie de tous les saints, c'est l'extraordinaire liberté. C'est-à-dire que liberté d'abord par rapport à l'action. Le petit Vahm, il avait ce désir du sacerdoce vraiment ancré en lui. À l'âge de 5 ans, il voulait être prêtre. Il a pu accepter d'être simple frère et de s'occuper de quoi ? À un moment, il a été tailleur pour tailler les vêtements des frères. Je crois qu'après, il s'est occupé d'une sacristie, comme la petite Thérèse d'ailleurs. En fait, comme il était quand même très faible de constitution et qu'il était très émotif, il restait très émotif et tout ça, souvent, il avait beaucoup de mal à faire, en tout cas au début, il avait beaucoup de mal à faire les choses. Et il s'est jamais laissé décourager par ça. Pourquoi ? Mais parce que dans la relation d'amour avec le Christ, l'œuvre devient relative. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est pas la grandeur de l'œuvre. Ce qui compte, c'est la pureté de l'intention. C'est-à-dire le faire plaisir à l'autre. Quand on est amoureux, on cherche à faire plaisir. Écoutez, écoutez un des dialogues avec où Jésus parle au petit Vahm. Les épouses que j'aime le plus sont celles qui savent le mieux se conduire avec moi. Celles qui, attentives à connaître ce que j'aime, ce qui est de nature à me plaire, le recherchent pour me l'offrir dans l'intention de me faire plaisir. C'est-à-dire, la seule chose qui compte, c'est le bon plaisir du bien-aimé. Ça me rappelle une autre sainte que vous connaissez, j'espère, Paquita, la patronne du Soudan, vous savez, qui elle-même a eu sa dose de souffrance dans sa jeunesse, puisqu'elle a été esclave. Elle a porté jusqu'à sa mort les marques des coups de fouet reçus. Et Paquita, à la fin de sa vie, elle ne pouvait plus faire grand-chose à cause de son état de santé. Et elle s'est retrouvée donc un peu mise à l'écart dans un couvent. Et une fois, il y a un monseigneur qui est arrivé et qui a commencé à faire un exposé sur tout ce qu'il faisait pour Dieu, ses œuvres apostoliques. Et il s'est tourné vers la vieille sœur Paquita et lui a dit, vous ma sœur, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous savez, chez certains prêtres, il y a toujours l'idée que les religieuses ne font pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faites ? Elle répond du tac au tac la même chose que vous. Vous devinez la réponse ? La même chose que vous, monseigneur. Surpris, la volonté de Dieu. La personne qui est capable de répondre ça, elle est capable d'assumer n'importe quel travail. Peut se retrouver la petite, c'est Bernadette qui disait qu'elle avait été mise dans un placard quand elle est rentrée au couvent. On s'est intéressé à elle au début, et puis après, on a trouvé qu'elle était vraiment inefficace, et donc on lui a donné des postes qui étaient sans. Où il n'y avait pratiquement pas grand-chose à faire. Elle se comparait à un balai dont on ne sait pas quoi faire et qu'on met dans un placard. Ben, elle n'a pas été écrasée par ça, vous voyez. Il y a tellement de gens actuellement qui, dans leur boulot, sont mis dans des placards et en meurent. Mais celui qui trouve sa vie dans la relation avec le Christ, qu'il soit mis dans un placard ou qu'il soit mis en position haute, ça, il devient progressivement ce que saint Ignace appelait indifférent. Et on voit que Van s'est laissé conduire sur ce chemin d'indifférence en suivant le chemin de l'obéissance. C'est-à-dire de s'en remettre à, dans la vie religieuse, l'avantage c'est qu'on peut obéir, et il s'en est remis de plus en plus, vraiment d'abord à son directeur spirituel qu'il appelait Jésus Barbu, et il s'en est remis de plus en plus donc au bon plaisir de ses supérieurs, ne voyant que l'action de Dieu à travers eux. Alors je note simplement pour vous dire que quand même il n'est pas arrivé tout de suite à ça. Il faut quand même se rassurer un peu. Alors, après le travail à la taillerie, donc il devait avoir 20 ans à peu près, je suppose, le frère Marcel lui acceptait celui de la sacristie. Charge plus importante et plus honorable que la précédente. Quand même pas rien d'être sacristain. Alors, tout semblait marcher selon son gré. Il y avait danger de céder à la volonté propre et à la prétention. Il faut dire que Jésus lui a dit plusieurs fois, si tu fais des choses selon ta volonté propre, tu n'es pas pour moi une épouse. Tu ne peux pas m'offrir le sacrifice de l'amour. Si tu suis ta volonté propre, je peux pas, tes œuvres, je ne peux pas les recevoir. Donc il lui a dit, il n'y a qu'un seul sacrifice, le meilleur sacrifice, ce sera toujours l'obéissance. Tu veux m'offrir des roses, tu veux m'offrir des belles fleurs, mais écoute, tiens-toi à l'obéissance, ce n'est pas la peine de vouloir jeûner et faire des choses comme ça. Si tu n'obéis pas, ça n'a pas de valeur. Et si tu jeûnes, tu dois le faire dans l'obéissance à ton père spirituel. Donc il avait été très bien éduqué par le Christ, hein, faut reconnaître. Mais alors, regardez la suite. Il se retrouve sacristain. Pour lui, c'est une promotion. Il est content. Il aime beaucoup, évidemment, servir la messe. Il est très heureux. Et alors, aussi, frère Marcel reconnaît-il avoir pris quelques initiatives malheureuses qui lui ont attiré les réprimandes du supérieur et même un blâme sévère parce que son avis avait été sollicité d'une façon trop vague. Ça, je connais. Et quand on est vicaire, qu'on a un curé, qu'on veut faire quelque chose sans que le curé sache trop, on parle vaguement. On dit un truc un peu flou. Un du genre un peu flou auquel la personne ne peut pas répondre non. Et puis on fait son truc dans le flou. Voilà. Parce que si on avait précisé, peut-être qu'il n'aurait pas été d'accord. Donc moi je connais le truc. Alors, lui, il est tombé là-dedans, mais il a été repéré. Le supérieur lui dit, attends, tu ne m'as pas dit que tu ferais comme ça, si tu m'avais dit tout ça. Et il s'est fait sévèrement corriger. Mais ça, c'est des corrections de Dieu. Et le père spirituel conclut en disant, Dieu sans doute permis cette humiliation pour que le frère Marcel progresse dans la vertu d'une volonté plus tenace et que son amour devint plus pur et plus fort. Un amour plus pur et plus fort, c'est un amour qui ne désire vraiment que le bon plaisir de celui qu'on aime, en cherchant à lui plaire et en cherchant à connaître ce qui lui plaît. Et alors, ici, ça se corse un petit peu parce que... Est-ce que vous savez ce qui plaît à Jésus? Ce qui lui fait le plus plaisir? Est-ce que vous avez une idée de ce que le Seigneur attend de ses épouses les plus chères, de celles qui sont vraiment attentives aux désirs de son cœur? Oh mon petit ami, as-tu compris ce qui me plaît davantage? Mon plus grand plaisir... Alors là, il faut noter, hein, C'est l'époux qui parle. C'est un époux particulier quand même, le Christ. Mon plus grand plaisir, si tu veux vraiment me faire plaisir, et non pas n'en faire qu'à ta tête en pensant faire des choses pour moi. Tu veux vraiment, comme une épouse bien-aimée, réjouir mon cœur et être dans une relation dans laquelle tu cherches vraiment à me plaire, qu'est-ce que je te demande? Mon plus grand plaisir, c'est d'accueillir les souffrances et les larmes que tu m'offres dans ta douleur. C'est peut-être pas la réponse qu'on aurait attendue, mais là-dessus, Jésus, il est très clair, et le moins qu'on puisse dire, c'est à peu près toutes les trois pages dans les colloques, ça revient. Si tu m'aimes, accepte les souffrances. Offre-les-moi comme des roses. Le petit Van, il a cette image que les souffrances, en les acceptant, c'est comme s'il lançait une rose au ciel. Il lançait une rose à Jésus. Et puis, avec cette image des roses, vous savez qu'on offre des roses et ensuite, ça retombe en pétales, en grâce pour les autres. Alors ça, le petit Van, comme je l'ai dit au début, il a commencé à le comprendre à cette grâce de Noël qu'il a reçue en 1940, que sa mission, c'était de transformer la souffrance en bonheur, en joie. En 1951, il écrit « Plus j'avance, plus je vois que la sainteté, c'est une vie où il faut changer la tristesse en joie. » Là, ça devient intéressant. Parce que on pense offrir ses souffrances, accepter, on voit la croix, tout ça. Et là, ici, il y a une expression qui est typique du petit Van. Changer la tristesse en joie. Au début, vous voyez, à Noël, il dit transformer la souffrance en bonheur. Puis après, il prend un autre terme qui est tristesse. Entre-temps, il a fait un chemin. Il a compris que Jésus, sur la croix, avait plus souffert dans son âme que dans son corps. Que les plus grandes souffrances étaient les souffrances intérieures, comme il dit, pas les souffrances extérieures. Et Jésus lui a appris à lui qui était extrêmement sensible, hein, qui se troublait, qui s'attristait, se vexait. À un certain moment, Jésus lui dit « Tu te vexes pour pas grand-chose ». Enfin, il le corrige en lui montrant que vraiment, il se rend malheureux, il se rend triste pour pas grand-chose. Et à chaque fois, Jésus lui dit « Bon, ben voilà, tu t'es attristé, telle chose, mais ta tristesse, offre-la moi. C'est cette souffrance-là que j'attends. » Une autre fois, par exemple, il y a un frère qui lui a fait une remarque et puis il a mal réagi, alors il était triste de ne pas avoir accepté la réprimande du frère. Et alors à ce moment-là, je crois que c'est la Vierge qui lui fait comprendre, mais écoute, si tu avais réussi à accepter l'humiliation sur le moment, ça aurait été bien, mais tu me fais encore plus plaisir en offrant la tristesse de ne pas avoir accepté l'humiliation. En acceptant ta faiblesse, en acceptant d'être troublé, parce que tu n'as pas réussi ce que tu aurais aimé vivre pour Jésus. Alors là, ça devient même carrément intéressant. C'est-à-dire que les souffrances, on n'aime pas, les souffrances intérieures, encore moins que les souffrances extérieures, hein, on réagit mal. De ce fait qu'on réagit mal, on devient triste, on est troublé, on se rend malheureux, et Jésus nous dit, à travers le petit Van, ça m'intéresse. Cette souffrance-là m'intéresse. La laisse pas se perdre. Vous voyez, si on rentrait vraiment dans cette logique, il n'y a pas moyen d'être perdant. C'est-à-dire, même quand on perd, on peut gagner. On rebondit. S'il y en a un qui, parmi vous qui me dit « Mais moi, je ne peux pas accepter certaines choses ben, », Jésus lui dit ben, « Justement, parce que tu ne peux pas accepter, que tu es trop faible, tu n'acceptes pas, offre-moi ta colère, offre-moi tes émotions, tout ce que tu ressens. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi ? Je pense parce qu'il y a plus d'humilité. Il y a plus d'humilité à offrir des souffrances qui sont liées à nos fautes, qui sont liées à notre incapacité à assumer certaines choses. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'on fait habituellement ? On réagit mal. J'ai eu le cas d'une enfant dont on m'a parlé récemment. En fait, elle était très, très refermée sur elle, parlait très peu. Et finalement, sa maman a fini par comprendre. Une fille qui doit avoir 7-8 ans. En parlant, sa maman a fini par comprendre qu'en réalité, pourquoi elle était toute triste et toute refermée sur elle ? Parce qu'elle était jalouse de sa petite sœur et qu'elle trouvait très moche d'être jalouse. Donc elle n'était pas triste de la jalousie elle-même. Elle était triste de se voir jalouse. Et nous, on est souvent comme ça. On réagit mal et on voit qu'on réagit mal et on est mécontent de soi. Hein? Et quelque part... je dirais, on a cette nostalgie d'une force d'âme, hein, d'une force qui nous permet d'assumer et de passer au-dessus de l'offense. Et Jésus nous dit, non, ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est que une fois que tu te retrouves dans cet état de la personne, comme la petite Thérèse qui disait que quand elle avait pleuré, elle pleurait d'avoir pleuré, eh bien, au lieu de rester là-dessus, c'est-à-dire d'être malheureux de soi-même, de se détester soi-même en restant centré sur soi, tu penses à Jésus, et Jésus est preneur de toute forme de souffrance, à commencer par celles qui sont liées à nos péchés. Parce que toutes ces souffrances-là, tristesse, dégoût de soi, trouble, culpabilité, il faut penser que Jésus, sur la croix, il a assumé ça. Il l'a vécu. Il a vécu à la place des pécheurs tout ce que ressentent les pécheurs du fait du péché. Et donc même cette souffrance liée au péché, parce qu'elle a été assumée par Jésus sur la croix, elle peut être transformée en amour. Elle peut devenir un chemin d'amour. On peut les lui offrir. Parce qu'elles ont déjà été offertes sur la croix. Ça, mes frères, si on était pleinement convaincus, pénétrés de ça, la vie serait tellement plus légère. Vous voyez, là, personne ne peut dire, moi, c'est pas mon truc, je ne peux pas rentrer là-dedans. Non, c'est simplement qu'on ne pense pas à Jésus. Hein, qu'on reste centré. On reste dans la nostalgie d'un idéal de soi. On voudrait être parfait. On voudrait être quelqu'un de plus aimant, de plus généreux. Et puis en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, on poursuit notre perfection propre, un idéal de sainteté. Alors qu'en fait, ce n'est pas une perfection propre et un idéal de sainteté qu'il faut poursuivre, mais Jésus lui-même, dans cette relation. Alors, qu'est-ce que le petit Van nous apprend pour cultiver une relation, cette relation amoureuse ? Qu'est-ce que Jésus lui apprend ? Énormément de choses, hein. Vraiment énormément de choses. Mais je voudrais insister sur un aspect, l'aspect du dialogue. L'aspect du dialogue. Non seulement Dieu me parlait, écrit le Marcel Van, mais il exigeait aussi de m'entendre parler. Vous savez, dans un couple, hein, les problèmes des divorces, c'est les problèmes de communication. Dans l'immense majorité des cas, quand on n'arrive plus à se parler, ben, même si l'amour était très intense au départ, d'un moment à un autre, ça détruit la relation. Non seulement Dieu me parlait, mais il exigeait aussi de m'entendre parler. Plein de bonté, il me demandait de lui raconter tous les petits faits de ma vie dans les moindres détails. Il voulait que je lui parle de mon travail de tous les jours, de mes difficultés avec les confrères, des choses qui me faisaient souffrir. Je lui parlais aussi en toute sincérité de mes défauts et lui demandais de m'aider à m'en corriger. Après avoir écouté mes histoires minutieuses, Jésus me faisait savoir qu'il était très heureux d'avoir pu me les entendre raconter avec tant de sincérité. Si au lieu de ruminer les choses, on avait le réflexe de les raconter à Jésus, on serait tout de suite libéré de plein de pathologies. C'est l'attitude de confession. Mais on accepte de se mettre à nu en confessionnal, mais c'est pour un exercice qui est là pour nous apprendre à être dans une attitude de confession vis-à-vis du Christ permanente. En fait, c'est... Quel est le secret? C'est l'humilité. Il le dit un moment, Jésus, pourquoi j'ai si peu d'âmes épouses? Parce que les âmes ne sont pas assez humbles pour rentrer dans ce mystère. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu appeler les bien portants, mais les malades. Pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et donc, se raconter ses difficultés, raconter, dire sa colère à Jésus, dire son trouble, dire sa tristesse, c'est ça le chemin. Où on commence à, encore une fois, à arrêter de se regarder soi-même, de rester à ruminer les choses en soi. Personnellement, j'ai bien du mal à parler comme ça familièrement avec le Christ, mais je me rends compte que, à travers le divan, que c'est aussi une question de se lancer. C'est-à-dire, il faut se forcer un peu au début. On n'ose pas trop parler, on a du mal à parler, mais il faut y aller. Alors, par exemple, Jésus dit, apprends au petit van des prières du genre, petit Jésus, viens avec moi, petit Jésus, je t'aime beaucoup. Des petites prières comme ça, qu'on a l'impression qu'on se dit, mais c'est complètement infantile, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est des petits mots d'amour tout simples qui, si on les dit, je dirais comme un exercice qu'on fait, vous voyez, vont nous aider à sortir un peu de nous-mêmes. Alors, Jésus dit au petit vin, si vraiment tu es trop triste, trop troublé, tu n'arrives pas à me parler, regarde-moi. Au moins, regarde-moi. C'est-à-dire, arrête de te regarder toi-même, regarde-moi. Pensez à Jésus. On ne veut pas lui parler, au moins on pense à lui. Ça aussi, Sainte Thérèse d'Avila, dans le chemin de la perfection, elle dit ça aussi. Elle dit qu'il ne demande qu'un clin d'œil. Mais rien que ça. Je me souviens d'un prêtre qui a vécu ici sur cette paroisse. Il disait 5 rosaires par jour. Il se levait à 4h du matin, il disait 5 rosaires par jour. Bon, quand on prie beaucoup, on dort moins. Et une fois, je le vois on attendait que le curé arrive pour commencer le repas, on était tous debout autour de la table, et je le vois immobile, comme ça. Et je lui dis, il ne parlait pas, alors que les autres bavardaient autour. Je lui dis, mais tu fais quoi là? Il me répond simplement, je pense à Jésus. Et moi je me suis retrouvé, je me suis dit, au fond, Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre d'abord que de penser à lui? Et à quel point c'est libérant aussi. Vous voyez, il y a deux choses. L'humilité, être en vérité devant lui. Vous voyez, pour sortir d'un personnage, on a rien à lui prouver à Jésus. Il n'y a pas de façon, on peut arrêter son cinéma avec lui. Hein. Il nous connaît mieux qu'on ne se connaît soi-même. Bon, être à nu devant lui et le regarder. Parce que pour que Jésus exerce sa puissance d'attraction de son amour divin sur nous, il faut qu'il y ait le regard. Ne pas penser à lui, c'est l'empêcher de nous attirer à lui. Une autre chose, c'est qui est peut-être difficile pour beaucoup d'entre nous, c'est le fait qu'avec Jésus, c'est Jésus enfant qui lui apparaît, qui lui parle. Ça, c'est... Il y a des personnes qui trouvent ça infantilisant, hein, parce que, bon, on est plutôt à considérer le Christ dans sa maturité, évidemment. Jésus est mort à 33 ans, dans la plénitude de l'âge. Mais pourquoi il apparaît comme enfant? Je pense que il apparaît comme enfant, comme une... C'est thérapeutique. Il dit à un moment, Jésus à Vannes, que les enfants, ils ne savent qu'aimer. C'est ça. Il dit à Vannes, je n'ai jamais vu une âme plus faible que la tienne. Toutefois, Marcel, il ne faut pas te décourager. Peu importe que tu sois faible. Après avoir tout remis entre mes mains, pourquoi aurais-tu peur de ta faiblesse? Tout ce qui te reste à faire, c'est de m'aimer. Pour le reste, je m'en charge. En effet, ne savent faire que savent faire les petits-enfants. Aimer, voilà leur unique occupation. C'est-à-dire, en fait, les enfants, ils ne cherchent pas une position, ils ne cherchent pas une perfection propre, ils sont tout dans le jeu. Et ils sont dans le jeu parce que c'est la relation qu'ils cherchent. À travers le jeu, ils jouissent d'une relation vivante. En fait, de fait, les enfants ne savent qu'aimer. Ils ne sont pas dans le faire. Et, par exemple, moi j'ai essayé avant l'enseignement, j'ai dit, petit Jésus, tu viens avec moi. Bon, si on parle à un enfant comme ça, qui joue, avec un enfant qui joue, ça vous met en état de jeu. C'est-à-dire, on a moins envie de se prendre au sérieux avec un enfant. On a en face de soi l'enfant Jésus qui ne pense qu'à jouer. Parce que Jésus lui dit, moi j'aime bien jouer. Et puis il lui dit aussi, moi j'aime. Il faut pour que je joue avec toi, il ne faut pas que tu sois malheureux comme ça, en te rendant triste parce que tu es faible et tout ça. Il faut que tu, faut précisément que tu changes ta tristesse en joie parce que sinon tu es comme une fleur fanée. Moi j'aime les belles fleurs, j'aime pas les fleurs fanées. Alors offre-moi une belle fleur, donc moi je peux jouer qu'avec un enfant joyeux, sinon ça m'attriste de te voir triste. Et alors, on est avec l'enfant Jésus, là, eh bien, tout de suite, on se... comment dire... Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais on n'a plus tellement envie de se prendre au sérieux, quoi. On rentre plus facilement dans un faire plaisir à l'autre, sous un mode de jeu. La dévotion à l'enfant Jésus, c'est un chemin d'humilité. Et c'est un chemin en même temps qui fait qu'on se, comment dire, on se détache du vouloir faire pour. Jésus, à un moment, lui dit à Van que le compare à un jouet. Et en fait, c'est une image qu'on retrouve chez la petite Thérèse. C'est-à-dire, laisse-moi jouer avec toi. À la fois, c'est un camarade de jeu et en même temps, c'est comme un jouet. Alors, laisse-moi jouer avec toi. Un jouet, on fait ce qu'on veut avec le jouet. Le jouet, il est content de faire plaisir à celui qui tient le jouet dans ses mains. À ce moment-là, regardez, vous gardez cette image-là, et puis vous vous dites dans la journée, Jésus, tu vas jouer avec moi. Moi, je suis le jouet, et toi, tu tiens le jouet dans les mains. Ça vous donne quelle impression, ça? L'impression que... D'abord, l'impression que c'est Jésus qui mène le jeu. C'est lui qui mène le jeu. Et il nous tient bien dans sa main, comme un jouet. Donc, il fait selon ses caprices. Puis c'est en plus, alors, Jésus lui dit que lui, il est un peu turbulent, alors le jouet, des fois, il le met de côté ou il le laisse tomber, enfin... Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit à Val, mais toi, ta joie, c'est juste de me faire plaisir. On laisse Dieu jouer. Ah, mais ça s'appelle l'abandon. Et c'est le secret de la sainteté. Et pour laisser Dieu jouer, Benoît XVI une fois a dit, il faut remettre Dieu en jeu. Il faut remettre Dieu en jeu parce qu'on vit dans un monde qui fait comme si Dieu n'existait pas, qui est habitué à vivre comme si Dieu n'était pas réellement agissant. Écoutez le petit Val. Il a eu encore une difficulté avec un des frères. Il s'appelle frère Marc. Alors il dit à Jésus, mais petit Jésus, pourquoi le frère Marc se conduit-il si rudement envers moi? N'oublie pas que je puis rejeter la faute sur toi, car c'est toi-même qui vis dans le frère Marc, et c'est toi-même qui lui permet de me faire souffrir. C'est la vérité, la plus stricte. Si vous ne croyez pas, croyez le catéchisme. Qu'est-ce que dit le catéchisme ? Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Nous sommes tous des causes secondes. La cause première, c'est Dieu. Dans tout agir, il y a un agir divin qui se cache. Que Dieu le permette ou que Dieu le veuille, de toute façon, ça n'échappe pas à sa providence, ça n'échappe pas à son amour miséricordieux. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate, elle prend soin de tout. Donc, dans une journée, Jésus joue en permanence. Il n'y a rien qui n'échappe à ses caprices, si je puis dire. Et ses caprices, c'est son dessein d'amour sur nous et sur l'humanité. Aussi, le catéchisme dit, on voit l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture, attribuer souvent des actions à Dieu sans mentionner les causes secondes. Mais comme le petit Van, il dit à Jésus, hein, n'oublie pas que si Marc se conduit si rudement envers toi, c'est toi qui agis là. Alors, non, parce que Jésus lui avait dit qu'il manquait de charité. Alors, lui dit, petit Jésus, avant de m'accuser de manquer de charité, vois toi-même. Ouais, ça, c'est une vraie relation. C'est une vraie relation. Mais en fait, il avait été bien formé parce que une fois, Jésus lui a donné une leçon. Moi, ça je ne le dirai jamais. C'est dans l'autobiographie. Il raconte que Jésus, à un moment, il était très en colère contre un frère, et Jésus lui a dit, mais t'es comme les chiens, quand on leur jette une pierre, ils s'attaquent à la pierre, au lieu de regarder celui qui a jeté la pierre. Et ça, il y a une grande leçon. Si on veut vraiment, je dirais, se réconcilier avec sa destinée, si on veut arriver à pardonner jusqu'au bout aux autres, si on veut arriver aussi à se pardonner à soi-même, il faut d'abord régler les comptes avec le grand joueur, enfin le petit joueur, Jésus. Parce que c'est lui qui se sert de tout. Et donc, je veux dire, c'est en acceptant la volonté de Dieu qui se cache derrière les choses et les personnes que l'on peut arriver à une véritable réconciliation. Mais il faut arrêter de s'en prendre à la pierre et regarder celui qui a jeté la pierre. Ici, je me permets de citer le pape Benoît XVI, qui dit qu'actuellement, il y a une grande tentation dans la théologie. La tentation du dualisme. C'est-à-dire qu'il y aurait d'une part un principe mauvais, le mal, à l'œuvre, et d'autre part un principe bon. Et qu'au fond, le monde serait partagé entre ces deux réalités. Le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et en fait, Dieu ne serait pas tout puissant. De cette manière, on cherche une apologie de Dieu. On cherche à excuser Dieu. Une apologie de Dieu qui ainsi ne serait pas responsable du mal que nous trouvons largement à travers le monde. Mais quelle pauvre apologie! Un Dieu qui ne serait pas tout-puissant. Le mal n'est pas entre ses mains. Et comment pourrions-nous nous en remettre à ce Dieu? Comment pourrions-nous être sûrs de son amour si cet amour finit là où commence le pouvoir du mal? C'est quelque chose que le petit Van nous apprend. Voyez, si dans notre vie, face à la réalité du mal, nous disons ben, « Dieu n'y est pour rien », c'est vrai que Dieu ne veut absolument pas le péché. Mais il permet les conséquences du péché. Je veux dire, c'est les conséquences du péché qui ont été assumées sur la croix. Les conséquences, toutes les conséquences du péché, tout ce qui, à cause du péché, est détruit dans le monde, toute cette œuvre de destruction du péché, c'est ça, cette souffrance-là liée au péché, c'est ça qui est repris dans le pouvoir de l'amour. C'est ça qui est transformé par le pouvoir de l'amour. Et si on dit « Dieu ne veut pas le péché, donc il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le monde, parce que tout ça c'est lié au péché », ben on se retrouve devant un amour impuissant. Alors si on accepte jusqu'au bout le mystère de la croix, que Dieu, de fait, a assumé tout ça avec un amour plus grand, plus fort que le mal, que la puissance destructrice du péché, à ce moment-là, on peut tout recevoir de la main de Dieu. D'un Dieu qui est descendu dans l'abîme de la souffrance, et avoir une confiance totale, qu'il n'y a rien qui échappe au pouvoir de l'amour. Comme aimait dire Benoît XVI, il y a dans le monde un amour plus fort que le mal. Et ça c'est ce regard de foi qui est la base de toute la vie chrétienne. Alors je termine avec le concile. Ah mais, oui, normalement il y a des questions. Là, peut-être, oui. Ah ben, Jésus s'est défendu, hein. Oui, ben Jésus se défend très bien quand on l'attaque comme ça. Mais c'est pour moi une occasion de te faire comprendre quelque chose de la grâce. Il lui explique le sens de l'épreuve. Il lui dit pourquoi il a permis cette difficulté avec le frère Marc. Et il lui fait comprendre qu'en réalité, c'est toujours son amour qui est là et qui n'a pas à craindre. quand la relation est réelle, c'est une vraie relation d'amour, il y a la force d'âme, comme je l'ai dit au début. Et la force d'âme, on l'a vu dans la fin de sa vie. C'est comme la petite Thérèse, le fait qu'elle a ratifié, je dirais, la vérité de sa voix d'enfance en vivant comme elle l'a vécu la fin de sa vie avec cette terrible épreuve qu'elle a traversée d'être à la fois d'une maladie extrêmement douloureuse, tuberculose, et en même temps la nuit de la foi. Donc elle a tenu bon dans une grande souffrance physique et morale, une souffrance d'âme. Le petit Van aussi a été privé de toute consolation dans les dernières années. Le père Olivier pourrait en parler mieux que moi. Il a tenu comme la petite Thérèse a tenu, signe de la réalité de la relation. Moi, j'aurais pu... Celui-là. Je peux parler avec celui-là. Je pense que ce qui a en partie perdu, entre guillemets, la France, c'est quand même beaucoup l'orgueil intellectuel. Et que l'humilité du petit Van qui se laisse enseigner comme un petit enfant, elle est vraiment thérapeutique pour nous. Que aussi, avec l'orgueil intellectuel français, il y a eu une focalisation extrêmement grande sur l'action elle-même. On s'est laissé trop prendre par le faire. On voit ce danger du faire dans les paroisses. Hein. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation où si on parie sur la quantité, au lieu de croire d'abord à la puissance de l'amour pur et de croire à ce qu'a vécu la petite Thérèse, c'est-à-dire être au cœur de l'Église comme l'amour qui laisse circuler la grâce. Si on n'a pas plus de foi en l'amour lui-même, si on ne se ressent pas sur cette relation intime avec le Christ, la fille aînée de l'Église, elle peut que continuer à avoir aussi bien des déceptions amères. Donc je pense que nous avons affaire au type de sainteté dont nous avons précisément besoin. Et ici, je ferai un rapprochement avec Van Thuan. Van Thuan, quand il était au Vatican, puisqu'il a terminé sa vie au Vatican, j'ai su par le père Francisco, qu'on appelait, on disait de lui qu'il était le simple, le cardinal simple. Simplicité, authenticité, sincérité, d'un véritable ami de Jésus. Son procès de canonisation est plus avancé que celui de Marcel Van. Mais cet homme, comment est-il devenu le simple? Eh bien, je me permets de citer le témoignage du cardinal François Nguyen Van Thuan. Durant ma longue tribulation de 9 années d'isolement, dans une cellule sans fenêtre, parfois soumise à la lumière électrique pendant des jours, d'autres fois plongée dans l'obscurité, je suffoquais à cause de la chaleur et de l'humidité à la limite de la folie. J'étais encore un jeune évêque, avec derrière moi 8 ans d'expérience pastorale. Je ne réussissais pas à dormir, j'étais tourmenté à l'idée de devoir abandonner le diocèse, de laisser s'en aller en ruine tant d'œuvres que j'y avais engagées pour Dieu. J'expérimentais comme une révolte de tout mon être. Vous voyez, ici, vous allez dire, mais c'est tout à fait normal. Un jeune évêque hyper dynamique qui est en train de revitaliser son diocèse, qui est en pleine activité, qui se retrouve en cellule d'isolement. Mais quel sens ça a? Une nuit, une voix m'a dit au plus profond de mon cœur, pourquoi te tourmenter ainsi? Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Tout ce que tu as accompli et que tu désires continuer à faire, les vies pastorales, la formation des séminaristes, des religieux, des laïcs, des jeunes, des constructions d'écoles, de foyers pour étudiants, les missions pour l'évangélisation des non-chrétiens, tout cela est excellent. Ce sont les œuvres de Dieu, mais non pas Dieu. Si Dieu veut que tu abandonnes tout cela, fais-le tout de suite, aie confiance en lui. Dieu fera les choses infiniment mieux que toi. Confiera ses œuvres à d'autres qui sont bien plus capables que toi. Tu as choisi Dieu seul, non pas ses œuvres. Petit Val, il est allé aussi de dépouillement en dépouillement. Il a dû renoncer au sacerdoce. Ensuite, il s'est retrouvé à une position où il se sentait tellement faible par rapport aux autres frères qu'il a été mis. Pour lui, le grand truc honorifique, c'était d'être sacristain. Entre nous, c'est quand même pas énorme. Hein. Bon. Et donc le petit Van, il a été réduit de plus en plus dans le faire. Mais tout ça pourquoi? Pour se recentrer sur Dieu lui-même. Et donc je dis simplement, c'est un modèle pour nous. Ça, d'ailleurs, il le dit, il compte sur les prêtres, il voudrait trouver parmi les prêtres des âmes épouses qui accepte d'être comme la petite Thérèse, l'amour au cœur de l'Église. Et regardez comment Van Toine conclut. Van Toine conclut du fait qu'il a reçu cette correction du Seigneur, qui lui a dit « Tout ça c'est bien, mais c'est pas moi. Et l'essentiel c'est la relation d'amour que tu as avec moi. » Qu'est-ce qu'il dit? Cette lumière m'a apporté une paix nouvelle qui a totalement changé ma manière de penser et m'a aidé à dépasser des moments physiquement à la limite du possible. » Ça, c'est la force de la relation amoureuse. Dès cet instant, une force nouvelle a rempli mon cœur et m'a accompagné pendant 13 ans. Je ressentais ma faiblesse humaine, je renouvelais ce choix face aux situations difficiles et la paix ne m'a jamais manqué. Choisir Dieu et non pas les œuvres de Dieu. Voilà le fondement de la vie chrétienne à chaque époque. C'est en même temps la réponse la plus vraie que l'on puisse donner au monde d'aujourd'hui. Ce monde qui est tellement marqué par un activisme bien intentionné, mais stérile le plus souvent. C'est le chemin par lequel se réalisent les desseins du Père sur nous, sur l'Église, sur l'humanité de notre temps. C'est le chemin de la sainteté, c'est le chemin de Van Toine, c'est le chemin de la petite Thérèse, c'est le chemin de Marcel Van. Et c'est le chemin pour notre temps. Voilà ma conclusion.